Et voilà, le Nouveau Testament nous transmet même des messages que Jésus-Christ a donnés. Dans la synagogue de Capernaüm, voilà le message suivant. Jean 6, 51, quelques versets. « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Or, le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. » Verset 59. Il dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaüm. Lorsque, il y a quelques semaines, j'étais avec ce groupe de 50 personnes ici à Capernaüm, j'ai pris la Bible et j'ai lu ce texte. Là où Jésus-Christ, 2000 ans avant, a prêché ce texte. N'est-ce pas, Jésus-Christ est venu comme le pain vivant. Il est venu pour mourir à notre place, parce que la Bible nous dit nous sommes des pécheurs devant Dieu. Nous avons péché contre Dieu, nous avons pas suivi les commandements de Dieu, la justice de Dieu. Mais Jésus-Christ est mort à notre place. Et si nous acceptons son sacrifice pour nous personnellement, ça c'est manger ce pain, manger sa chair. C'est donc, ça n'a rien à faire avec la scène, n'est-ce pas? À cette époque-là, il y avait pas encore la scène. Jésus-Christ l'a institué plus tard. Mais il explique, si on l'accepte vraiment personnellement comme le Sauveur, celui qui est mort pour moi personnellement, on a la vie éternelle. Et voyez un message merveilleux. Et un message fondamental. Une fois, j'ai parlé avec une personne et je l'ai demandé, d'ailleurs à la gare de Zurich, j'ai demandé, je ne connaissais pas cette personne, j'ai demandé, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous? Elle a dit, mais oui, il est mort pour tout le monde. Oui, mais vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous personnellement? Il est mort pour tout le monde. Et j'ai continué parce que j'avais le temps. Mais vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous personnellement? Il est mort pour tout le monde. Vous voyez, il n'a pas mangé la chair de Jésus-Christ. C'est donc vraiment accepté personnellement, pour mes péchés personnels. Il est mort. Vous avez la vie éternelle. Ensuite, la Bible explique comme Jésus-Christ, sur sa dernière route, il est allé de Jéricho à Jérusalem, tout en sachant qu'il va mourir à la croix comme sacrifice pour nos péchés. Et on a trouvé la route romaine qui mène depuis Jéricho à travers le désert de la Judée à Jérusalem. Donc, vous pouvez maintenant aller même sur la dernière route de Jésus-Christ lorsqu'il est monté à Jérusalem, comme le décrit Luc 19, 28. Et ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem. Lorsque je vois cette image, je pense chaque fois, Jésus-Christ est monté sur ce chemin en pensant à moi. Il voulait mourir pour moi personnellement. Il était prêt d'aller à Jérusalem. Il savait exactement ce qu'il allait venir. Il était prêt de prendre aussi cette dernière route. Il y a quelques années, on a trouvé, en rapport avec des travaux de route à Jérusalem, un grand tombeau avec plusieurs ossuaires. Vous voyez, un ossuaire, c'est un coffre, comme vous voyez ici, où on mettait des ossements des morts. C'était un tombeau, donc un tombeau, une collection d'ossuaires du 1er siècle. Ça, c'était clair de la structure. Mais on a vu, là, il y a un ossuaire avec de toute beauté, comme vous voyez, n'est-ce pas? Alors, on savait tout de suite, alors, cet ossuaire appartenait à une personne très importante du 1er siècle. Ensuite, on a réalisé ici, sur le côté, il y a une inscription hébraïque. Vous pouvez lire ça? Alors là, c'est avec les lettres hébraïques d'aujourd'hui. Yehosef, Yehosef bar Kapha, Joseph, fils ou membre de la famille Caïn. Tiens, on savait des écrits de l'historien juif, Joseph Flav, du 1er siècle, que nous possédons toujours. que le nom du souverain sacrificateur, Caïphe, qui selon les évangiles avait condamné Jésus-Christ à la mort, avait le prénom Joseph. On a trouvé l'ossuaire de Joseph, Caïphe, de cet homme qui a condamné Jésus-Christ à la mort. C'est quand même remarquable, n'est-ce pas? Mais il y avait dans cet ossuaire plusieurs squelettes de plusieurs femmes et le squelette d'un homme d'environ 60 ans. Donc nous avons les ossements du souverain sacrificateur qui avait condamné Jésus-Christ. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils font ces ossements-là? Eh bien, la Bible nous dit, ils attendent la résurrection. Mais pas la résurrection à la vie, la résurrection à la condamnation éternelle. Et nous pouvons le dire parce que Caïphe a rejeté le Sauveur. Et la Bible nous explique, chacun qui passe à côté ou rejette le Sauveur Jésus-Christ va être jeté à la condamnation éternelle. C'est terrible, n'est-ce pas? On n'a pas trouvé d'ossement de Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Mais là, ils sont. Matthieu 26, 57. Et ceux qui s'étaient saisis de Jésus l'amenèrent à Caïphe, le souverain sacrificateur, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Ensuite, le procès contre Jésus-Christ. En Jean 19, 17, nous lisons comme finalement Jésus-Christ a été amené vers Golgotha pour être crucifié. Et il sortit donc de la ville de Jérusalem, portant sa croix et s'en alla au lieu appelé lieu du crâne, qui est appelé en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Voilà une maquette de Jérusalem à l'époque de Jésus-Christ. Et vous voyez ici le rocher de Golgotha devant la porte du jardin de Jérusalem, hors de la ville. C'est là où les Romains ont régulièrement crucifié. Mais on connaissait cette porte du jardin seulement par les écrits du témoin oculaire du 1er siècle, de l'historien juif Joseph Flave. Mais après la guerre des six jours, où Israël a donc conquis Jérusalem de l'Est, aussi avec le quartier juif, là, on a fait énormément d'excavations et on a trouvé la porte du jardin. Donc la porte qui menait directement vers Golgotha. Et vous avez ici, là, une photo. Alors quand je vais à cet endroit-là avec des groupes, je prends la main Bible et je lis Hébreux 13, verset 12. C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifiât le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Et j'explique, voyez, Jésus-Christ a passé par cette porte pour mourir pour mes péchés personnels. Le juste pour nous, les injustes, pour nous amener à Dieu, c'est merveilleux. On a, dans le passé, jamais trouvé des restes d'un crucifié. Jamais. Bien sûr, il y a une bonne explication. Parce que les crucifiés n'étaient normalement pas mis dans un tombeau normal. Donc ils sont disparus. Mais il y a quelques années, en rapport avec des travaux de rue, nous à Jérusalem, on a trouvé un tombeau avec un ossuaire et là-dedans, les ossements d'un crucifié du 1er siècle. C'était Jean. Oui, parce que c'est écrit sur l'ossuaire, Yohanan, c'est Jean. Jean qui était crucifié. Et vous voyez, on a vu donc l'ossement du pied qui était cloué. Donc on a la preuve que les Romains ont effectivement crucifié en mettant des clous par les pieds et par les mains. En Luc 23, 32, 33, nous lisons, « Et quand ils furent venus au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là, Et les malfaiteurs, l'un à la droite et l'autre à la gauche. Et voyez, le roi David, 1000 ans avant Jésus-Christ, longtemps avant l'invention de la crucifixion par des clous, a écrit le psaume prophétique 22, où le Messie dit, au verset 16, « Car des chiens m'ont environné, une assemblée de méchants m'a entouré, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Il y a un verset dans la Bible qui résume tout le message de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est Jean 3, verset 16. Et vous voyez, l'archéologie nous a aidés à montrer à l'homme du 21e siècle qu'il n'y a pas de fossé affreux qui nous sépare des événements bibliques. Et chaque fois lorsque nous avons une possibilité pour contrôler la Bible, nous voyons qu'il a dit la vérité. Donc cela nous aide à avoir confiance aussi en les parties où nous n'avons pas les moyens pour vérifier, puisque nous sommes limités comme êtres humains. Et seulement une petite partie de ce qui se trouve dans la terre est excavée. Et seulement une partie, de toute façon, est toujours à trouver dans la terre. Alors ce message de l'archéologie est le suivant. La Bible est vraiment crédible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous sommes allés sur les traces de Jésus-Christ. Nous avons vu ce message, ce n'est pas simplement un message intéressant, historique, mais un message qui nous concerne. C'est pour ça que j'aimerais finir par Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Périr, c'est aller à la condamnation éternelle. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternel. Je souhaite à chacun d'avoir cette relation personnelle avec Dieu en croyant en son Fils unique, Jésus-Christ. Merci de votre attention.